Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés. Ça va de la nutrition en passant par l'aéronautique, l'entrepreneuriat, développement personnel, journalisme, financement, design et j'en passe. J'essaie de publier un nouvel épisode par semaine, tous les lundis matins à 6h15 et vous retrouverez toutes les notes du podcast, les livres à lire, références ou citations sur le blog du podcast www.le-6gratin.fr. Alors des petits détails d'intendance avant de passer à l'interview et à l'invité du jour. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, pensez s'il vous plaît bien sûr à vous abonner au podcast sur SoundCloud ou iTunes pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de guetter le lundi matin. Deuxièmement, je prends quelques instants pour vous remercier pour votre soutien. Je le fais régulièrement, mais là, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter le podcast et aussi très nombreux à le relayer autour de vous. Ça m'aide énormément, donc vraiment merci beaucoup. C'est ça ce qui m'aide à le faire connaître et à semer la bonne parole du gratin, si je puis dire. Donc pour ça, un grand et sincère merci. Et enfin, un dernier point, certains d'entre vous savent peut-être que je viens de lancer une newsletter en plus du podcast, la News du Gratin, je l'ai appelée comme ça, où je vous partage mes quelques petites découvertes du moment dans un mail très court qui prend 5 minutes à lire maximum. Et en fait, la News du Gratin, je l'envoie le vendredi matin parce que mon objectif, c'est que vous puissiez un peu savourer ces petites trouvailles avant le week-end pour bien finir la semaine. Pour vous inscrire, c'est très simple, ça se passe sur le site, donc www.le-6gratin.fr. Je vous le mets d'ailleurs en lien dans les notes de l'épisode, notamment sur iTunes. Et vous verrez, je ne vais pas vous spammer, rassurez-vous, la news n'est envoyée qu'une fois par semaine, le vendredi. Donc je vous rassure, vous ne serez pas sur une boîte mail débordante de newsletters. Voilà, alors fini avec ces petits détails, maintenant on passe à l'invité du jour. Et alors aujourd'hui, c'est un épisode qui est très particulier, c'est une sorte de test, je dois admettre. Et je dois remercier d'ailleurs mon invité, Alexandre Dana, qui s'est prêté au jeu d'être mon cobaye. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, un site de formation pour entrepreneurs, freelance et indépendants. Vous pourrez le retrouver sur le site de Live Mentor, bien évidemment, mais aussi sur LinkedIn, Alexandre Dana, ou mieux via l'excellente newsletter de Live Mentor qu'il rédige lui-même et diffuse une fois par semaine. Si vous voulez la retrouver, moi j'ai eu du mal, mais en fait c'est pas si compliqué, il faut descendre tout en bas du site de Live Mentor, c'est en bas à droite, et vous cliquez, c'est gratuit. Voilà, alors avec Alex, une fois n'est pas coutume, mais on n'a pas tellement parlé de l'aventure Live Mentor, même si elle mériterait en fait un épisode à part entière. Il a accepté d'être coach par intérim, si je puis dire, pour le gratin, et de répondre à toutes vos questions. J'avais en effet posté sur mon compte Instagram un petit sondage il y a quelques semaines pour vous prévenir de l'épisode, et vous avez vraiment joué le jeu, je dois dire. J'ai reçu quasiment une centaine de questions, donc vraiment un grand, grand merci pour votre investissement. Et parmi les questions traitées, on a notamment abordé des questions comme celle-ci. Comment sais-tu que tu tiens une bonne idée de boîte? Quels sont les outils de développement personnel que tu peux nous conseiller? Comment savoir s'il faut continuer, s'acharner ou s'arrêter? Y a-t-il besoin d'un expert comptable dès le lancement? Faut-il être complètement transparent avec son associé? Comment gérer les phases de découragement ou les phases difficiles? En fait, il y a eu d'autres questions parce que je n'ai pas arrêté de lui couper la parole et je m'en excuse par avance. J'espère que vous allez pas mal le prendre. Mais du coup, on est parti un peu dans tous les sens. En plus de ces questions-là, j'ai trouvé que l'expérience était hyper sympa et enrichissante pour moi aussi. Alex est vraiment un coach né, hyper inspirant et humble et aussi accessible, vous verrez. Surtout, il a vraiment de la légitimité parce qu'il donne des cours depuis 10 ans et a coaché des milliers de personnes via Live Mentor. Qui souhaitaient lancer leur projet. Donc Alex, un grand merci d'avoir accepté d'être mon cobaye pour cet épisode. J'aurais pas pu rêver d'avoir un meilleur candidat que toi. J'espère sincèrement que l'épisode va vous plaire, que le format va vous intéresser et surtout que les réponses d'Alex vous seront utiles pour développer vos propres projets. Je sais que vous êtes nombreux à vous poser des questions sur l'entrepreneuriat, donc si ça peut vous aider, tout sera gagné pour moi. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu sur Instagram ou Twitter. N'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous avez pensé de l'épisode, à me faire vos feedbacks, parce que comme ça, je saurai si on remet ça ou pas, ou si je change un petit peu le format. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Alexandre Dana. Salut Alex et bienvenue sur le podcast.
Salut.
Bah, je suis super contente de t'avoir. Ça fait un moment en plus qu'on essaye de trouver un créneau ensemble. Mais merci d'avoir accepté d'être mon cobaye en plus pour ce premier épisode consacré aux réponses aux questions des auditeurs.
Mais je suis ravi. Écoute, je suis un super fan, comme tu le sais, du gratin. Et je sais que tu remercies beaucoup tes invités. Mais moi, je te remercie au nom de tous les auditeurs parce que ce podcast, je pense qu'il comble un vide dans l'écosystème.
Bah écoute, ça me fait bien plaisir. Devenant de toi, en plus, ça me fait bien plaisir. L'expert dans tout ce qui est communautaire. Donc, écoute, du coup, messieurs, dames, je vous ai expliqué. Ce qu'on fait, c'est qu'on va répondre à des questions aujourd'hui et Alex accepte courageusement de se prêter au jeu. Il ne connaît pas vraiment les questions, donc en plus, soyez un peu indulgents parce qu'il va falloir quand même qu'il parle et qu'il réfléchisse en même temps, moi aussi. Mais voilà, on va se lancer. Alors la première question, c'est une personne qui s'appelle Yukiboy sur Instagram qui me l'a posée. Et d'ailleurs, je tiens à remercier au passage toutes les personnes qui ont accepté de poser ces questions. Vous avez été très, très nombreux. J'ai reçu des centaines de questions, donc merci beaucoup. Donc la première question est la suivante. Comment sais-tu, Alex, que tu tiens une bonne idée de boîte ?
C'est une super question parce qu'elle interroge notre éducation. Avant de répondre, je vais faire un petit détour qui me semble important. On se pose énormément de questions avant de lancer un projet parce qu'on est tous passés à peu près par le même moule, école maternelle, école primaire, collège, lycée, où le développement personnel et la recherche de ce qu'on veut, et ce sont des dimensions complètement absentes de la pédagogie. Mmh. On connaît le programme, on le connaît dès le début de l'année scolaire, on le suit durant toute l'année, on passe des examens, on passe des contrôles, ensuite on s'oriente, quelle que soit la voie, université, BTS, prépa, etc. Et donc, à aucun moment, vraiment, on se questionne. Le moment de questionnement, ça devrait être le rendez-vous chez le conseiller d'orientation. Et évidemment, on sait que ça ne fonctionne pas très bien. Et du coup, moi, je récupère chaque semaine des gens qui posent la même question que Yuki Boy.
Et d'ailleurs, Yuki Boy n'était pas le seul. Hein. J'ai choisi son nom, mais il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont posé cette question-là.
Voilà, je récupère chaque semaine des gens qui se posent cette question et qui luttent contre cette question et qui luttent énormément parce qu'on n'a malheureusement pas l'habitude de se poser des questions comme quelle est la bonne stratégie, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, est-ce que je sais que c'est une bonne idée de boîte. Le vrai sujet, il est là en fait. Le vrai sujet, il est sur la volonté. On n'interroge pas sa propre volonté pendant des années,
complètement,
quelle que soit la thématique. Et donc, au moment où on veut lancer un projet, cette méconnaissance, cet inconnu nous fait peur. Et on peut bloquer pendant des mois, pendant des années, pour savoir si c'est une bonne idée. Alors là où c'est encore pire, c'est que la méthodologie que j'appellerais traditionnelle, enfin qui est un peu la méthodologie d'école de commerce, pour savoir si une idée est bonne, elle est pour moi complètement inadaptée. Moi, j'ai fait une école de commerce, hein, donc je connais un petit peu. Moi, je n'étais pas très présent, mais je connais un peu. On te dit de faire une étude de marché, on te dit de regarder quels sont les marchés porteurs, et donc tu as un peu le sentiment que les entrepreneurs sont
Des mecs super rationnels.
Voilà, sont super rationnels et puis sont vraiment des financiers. C'est une approche où tu sors de l'INSEAD. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un MBA, quelque chose qui coûte très cher et qui dure toute l'année, voire plusieurs années d'ailleurs, et qui est un endroit où on forme les leaders à devenir encore plus leaders. Mais ce qu'on apprend à l'INSEAD, c'est regarde tous les marchés qui existent, tu vas regarder les opportunités, les changements de fonds, etc. Et pour ça, je pense qu'on est très très loin des préoccupations de 99,9% des gens qui veulent entreprendre. Pour moi, la première question que doit se poser Yuki Boy et les autres, c'est est-ce que cette idée fait écho à un désalignement entre mes valeurs et mon quotidien. Est-ce que je sens un appel vers un sujet qui peut être une interrogation sur les lessives bio, qui peut être une interrogation sur la vie d'un freelance, qui peut être interrogation sur cette gamme de thé que j'envisage de lancer, et un quotidien où au final je suis employé quelque part, je suis en CDI et puis en fait, je suis pas trop stimulé par ce qui se passe, je me lève le matin sans trop savoir pourquoi. Ça, de mon expérience, des rencontres de mes dernières années, des projets que j'ai coachés, c'est le plus gros levier de motivation. C'est je ressens un désalignement, je sens vraiment que mes valeurs, elles sont ailleurs, et donc je vais y aller. Ensuite, il y a d'autres étapes, mais je vais pouvoir y aller et je vais avoir la motivation pour tenir le chemin, pour tenir le parcours entrepreneurial, parce qu'il y a un désalignement qui est très fort.
Et alors, juste pour rebondir là-dessus, pour toi, ce désalignement, est-ce que c'est si on pousse le bouchon un peu loin, si je puis dire, c'est, il faut que ça soit carrément une souffrance. On parle souvent parfois de souffrance, de l'entrepreneur qui, en fait, ne se reconnaît tellement pas sur un sujet qu'en fait, il a besoin, entre guillemets, d'entreprendre. Ou est-ce qu'il faut juste que tu aies l'impression qu'il y ait une opportunité ? Enfin, quel est le gradient, tu vois, si je puis dire ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question et qui se disent « Ouais, je sens que c'est pas optimal ». Mais est-ce que de là, est-ce que ça soit pas optimal, est-ce qu'il faut que je crée une boîte là-dessus et que j'y consacre 10 ans de ma vie, c'est pas forcément évident, tu vois.
Pour moi, c'est la souffrance. Moi, je suis pas très drôle comme prof. Moi, j'aime beaucoup le travail et je crois beaucoup à la souffrance. Et effectivement, je pense que c'est un facteur de motivation et de plaisir. En fait, c'est vraiment aimer et détester son projet.
J'allais dire, c'est ça,
projet.
C'est qu'en fait, l'autre versant de la souffrance, c'est aussi la passion. C'est qu'en fait, ça te fait tellement souffrir que tu es hyper passionné par le projet et que tu ne penses qu'à ça, tu ne manges que pour ça, tu ne vis que pour ça.
Mais tu sais que tu avais reçu Frédéric Mazella, donc le fondateur de Blablacar, qui lui répète à chaque interview que le plus gros levier de motivation qu'il a eu durant les premières années de Blablacar, où c'était très difficile, où la boîte ne trouvait pas du tout son modèle, rien n'avançait, c'était je suis certain que ce service doit utiliser. Ouais. Ça n'a aucun sens qu'il n'y ait pas de service de covoiturage. Ça n'a aucun sens de payer aussi cher les billets de train. Ça doit utiliser. Je n'accepte pas cette
idée
cet
que ça n'existe pas, quoi. Voilà. Ça marche. Et alors le deuxième point, tu me parlais d'un premier point sur le fait de trouver la bonne idée et de savoir que c'est la bonne idée, qui était donc le fait qu'on ait cette souffrance, qu'on ait cette passion.
Bah écoute, c'est une. Tu m'invites à dévoiler une méthode sur laquelle.
T'es là pour ça.
En fait, je suis en train d'écrire un livre. J'essaie d'écrire mon premier livre, ce qui est aussi une grande souffrance. Ouais. Et dans ce livre, j'essaye de retracer un peu ce que j'ai appris en coachant des entrepreneurs. Et effectivement, dans les trois étapes de la méthode, tu as premièrement ce désalignement entre mes valeurs et mon quotidien. Et la deuxième étape, c'est une étape d'inspiration, d'aller à la rencontre de personnes qui ont justement ressenti le même désalignement et sont allées plus loin. Si, par exemple, je veux lancer un projet qui touche à tout ce qui concerne le retour au local, à l'économie de proximité, à quelque chose d'extrêmement artisanal, je dois aller voir des artisans et je dois aller voir des personnes qui ont essayé de réinventer les modèles économiques dans ce même univers. Je dois typiquement aller voir les fondateurs de La Ruche qui dit oui. Je dois aller voir des personnes qui ont bossé à La Ruche qui dit oui ou chez d'autres acteurs. Je dois aller faire une immersion totale dans ce milieu-là parce que j'ai besoin de leur inspiration, j'ai besoin de me rendre compte que il y a un autre cercle qui peut m'accueillir, qui est très différent de mon cercle actuel, qui est très différent de mon cercle amical peut-être, qui est très différent de mon cercle familial peut-être aussi, et qui va me donner encore plus de motivation, encore plus d'élan pour y aller jusqu'au bout.
Et ça, cette étape-là, en fait, parce que là, on est quasiment déjà dans l'opérationnel, j'ai envie de dire, est-ce que c'est une étape pour toi qui, comme tu le dis, est une étape plus d'inspiration, où en fait, tu vas voir ces personnes-là pour te remotiver, pour te motiver encore plus, ou est-ce que c'est pour commencer déjà à faire une espèce de semi-étude de marché, tu vois, où tu vas commencer à faire un peu un benchmark de la concurrence, essayer de comprendre aussi, et puis faire grandir ton expertise sur un domaine que parfois tu ne connais pas.
Alors, c'est un peu de tout ça, et c'est également une préparation à la troisième étape.
Très belle transition.
Qui est pour moi une étape d'affirmation, qui est le moment où tu oses dire au monde « je vais lancer un projet, je m'intéresse à ce sujet ». Tu ne peux pas savoir le nombre d'amis que j'ai autour de moi qui veulent lancer quelque chose et qui bossent dessus en sous-marin depuis des mois et sont tétanisés à l'idée de le dire sur leur Facebook. Et ça, il faut lutter contre ça.
Moi, je me rappelle le jour où j'ai parlé de Gemio au public, entre guillemets, enfin à mes amis, tu vois, j'ai juste envoyé un mail à tous mes potes, comme on fait tous quand on crée sa boîte. Et je me rappelle très bien que j'ai eu une émotion, mais probablement plus forte que quand je passe à la télé ou tu vois, enfin c'était, je me rappelle, j'avais l'impression en fait que ma réputation, que mes amitiés, enfin que tout était en jeu et en fait juste les gens étaient ravis et voilà, il n'y avait pas de jugement particulier.
Mais oui, parce que tu te mets à nu et tu oses prendre la parole, ce qui encore une fois, sans faire le vieux prof, nous ramène à la pédagogie et nous ramène au fait que l'éducation moderne n'est pas pensée sur l'interaction. Et penser sur l'écoute passive, et donc on n'a pas l'habitude de prendre la parole. Et là, dans cette étape d'affirmation, il faut prendre la parole. Et donc, l'étape 2, qui est l'étape d'inspiration, est ultra efficace si tu peux la mélanger avec l'étape 3, à savoir je vais aller voir ces personnes qui m'inspirent et je vais en parler. Mmh. Je vais en parler sur un blog, je vais en parler sur mon Facebook, je vais en parler sur mon profil LinkedIn, je vais les interviewer, je vais leur montrer à quel point j'admire ce qu'elles sont en train d'accomplir, à quel point. Ça va m'inspirer et donc je vais aussi rebondir sur leur communauté pour commencer à créer la mienne.
Et alors une question là-dessus, quand tu fais cette troisième partie de comment trouver l'idée et que tu commences à confronter l'idée à des personnes extérieures, est-ce que si tu as des feedbacks négatifs, des retours négatifs, tu les prends en compte, tu altères ton idée, enfin, est-ce que tu dois, et c'est une autre question qu'on va poser après, mais est-ce que tu dois voilà, mettre un peu un caveat à ce que tu es en train de faire ou à l'inverse, finalement, il faut continuer à foncer?
Tu dois évidemment écouter le retour qu'il y a en face. Pour moi, on construit toujours pour les autres, mais surtout, on construit avec les autres. Donc, ma méthodologie consiste à faire de la co-construction, en tout cas à inviter un maximum de personnes à co-construire. Dans les projets que j'ai accompagnés récemment et qui m'ont mis une claque, il y a une boîte qui s'appelle Fempo. Elles font des culottes.
Ouais.
Et elles commencent à faire pas mal parler d'elles. Elles font 1 500 000 euros de CA sur leur premier exercice.
C'est exceptionnel.
30 000 clientes. C'est complètement exceptionnel. C'est des culottes qui remplacent les tampons.
D'accord.
Des culottes lavables. Les deux filles, Claudette et Fanny, ont parlé, écouté, challenger le design de leurs culottes. Du coup, je suis assez devenu moi-même expert sur le sujet. Elles l'ont fait surtout avec des centaines, je crois, de filles. Elles ont commencé leur aventure en faisant un sondage.
D'accord.
Qu'elles ont diffusé sur Facebook principalement, sur les règles. Elles récoltent 3000 réponses.
Ouais, c'est...
Elles ont appris à ce moment-là énormément de choses. Énormément de choses et elles y sont allées de la bonne manière, à savoir... La co-construction, je ne suis pas en train de vous dire je vais faire une culotte et voilà comment ça va se passer. Je suis en train plutôt de vous interroger sur des problématiques profondes pour découvrir et apprendre. Et Claudette et Fanny, elles te disent mais Alex, on n'avait pas idée de à quel point c'était une souffrance pour certaines filles. On n'avait pas idée de telle problématique, telle situation. On ne pouvait pas imaginer par exemple commencer à recevoir pas mal d'emails de parents qui ont des filles handicapées, par exemple. Il y a des problématiques spécifiques là-dessus dans l'intimité. Bref, elles ont un tas d'exemples qui viennent de cette phase de co-construction.
Génial. Bah, écoute, je pense qu'on a bien... Enfin, surtout, tu as bien répondu à la première question. J'espère que ça satisfera Yuki Boy et les autres. Et je vous remercie encore pour toutes ces questions. Alors la deuxième, qui n'a rien à voir, mais que j'ai trouvée aussi hyper intéressante, c'est quels sont les outils de développement personnel que tu peux nous conseiller? Et ça, c'est Saftelkad qui nous a posé cette question, aussi avec d'autres personnes évidemment, mais on remercie Saftelkad. Donc tes outils de développement personnel préférés.
Bon alors, c'est
un peu large comme
c'est
question.
Large. C'est une sacrée bonne question.
À part le podcast Le Gratin, bien sûr.
À part le podcast Le Gratin, c'est clair. En fait, avant de parler d'outils, je pense qu'il y a une question d'approche. Et je vais un peu stigmatiser, je pense qu'il y a deux écoles de développement personnel. Tu as l'école douce, gentille, qui va beaucoup te parler de productivité, qui va te parler de t'écouter, qui va te parler de prendre du temps pour soi, et qui va... pour moi, avoir un peu trop tendance à être dans du plaisir et être dans quelque chose qui reste énormément en surface. Et moi, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes qui, par exemple, avaient lu tout ce qui pouvait avoir été écrit sur le Miracle Morning, sur le fait de se lever tôt le matin, et qui sont en fait énormément de théories qui ne sont pas confrontantes et où tu ne te regardes pas vraiment. Pour moi, le vrai développement personnel, c'est l'apprentissage. C'est essayer d'identifier les zones où on a envie de progresser, où on a envie d'avancer, et se dire, ok, je vais y aller, et je sais que dans ce chemin, il va y avoir à la fois des moments difficiles et des moments extrêmement plaisants. Et c'est vrai que j'ai l'impression de sonner comme quelqu'un de très rabat-joie depuis le début du podcast.
Non,
mais
pas du tout.
Je suis quelqu'un de très gentil.
Je confirme que c'est quelqu'un de gentil et d'enthousiaste.
Mais le vrai développement personnel, c'est un parcours.
Non, mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que ce n'est pas des outils, c'est surtout en fait une réflexion et l'art de se poser des questions aussi, peut-être.
Exactement, c'est l'art de se poser les questions. Et premièrement, l'art d'aller chercher les bonnes sources d'inspiration. Mmh. Et c'est là où, évidemment, les podcasts sont un outil exceptionnel de développement personnel, puisque ça te permet d'écouter la réflexion de quelqu'un pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, peut-être plus, et donc de vraiment rentrer dans une phase d'écoute. Et ça, pour moi, c'est la première étape de développement personnel, c'est de passer dans l'écoute. Moi, j'espère avoir appris à écouter au fil des années. J'ai beaucoup de mal à le faire au début. Parce que je fonçais vraiment tête baissée, je pensais que tout le monde était assez bête autour de moi, je me sentais assez seul dans mes études, j'ai tout de suite commencé à créer des boîtes, j'ai créé ma première boîte il y a 10 ans, et donc je fonçais un peu en solitaire, et je me suis rendu compte que l'écoute était quand même quelque chose quelque chose d'indispensable. Ensuite, évidemment, là je parle de ce que je connais le plus, le coaching a pour vocation d'aider quelqu'un dans sa problématique de développement personnel. Le coaching, c'est très large. Il y a bosser avec un coach, évidemment. Mais il y a simplement s'entourer de personnes qui peuvent te poser les bonnes questions, comme tu dis. Et un exemple que je prends souvent, c'est... je sais que moi, les discussions que j'avais autour de moi au début de Live Mentor étaient horribles. C'était tout le temps des discussions. Le logo n'est pas très beau. Le site, on ne comprend pas. Ce n'est pas des vraies discussions de coaching. Ce n'est pas des discussions qui font du bien. Les vraies questions qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que ce projet m'anime ? Pourquoi est-ce que j'y trouve de la passion ? Qu'est-ce qui me bloque en ce moment ? Comment est-ce que j'aime travailler ? Quel est mon mode de communication avec les autres ? Est-ce que je suis plutôt introverti ou extraverti ? Est-ce que j'aime planifier ou pas ? Ça, c'est des questions de développement personnel. Ouais. Et
apprendre à connaître qui tu es, ce que tu aimes, pourquoi tu fais les choses, en fait. C'est voilà. Un peu des questions simples, mais c'est vrai qu'on revient à ce que tu disais au début à l'école. Je trouve qu'on n'apprend pas vraiment à se poser ces questions. Même au contraire, on apprend à être un peu dans des cases et à ne pas remettre en cause ce que les gens ont dit de nous. Bon, c'est un peu peut-être de la psychologie de bas étage ce que je fais, mais c'est vrai que je pense que ce n'est pas si simple, en fait, à faire.
Non, mais on force des centaines de milliers de profs à suivre des programmes et on leur interdit d'avoir tout espace de liberté dans leurs cours. Donc on facilite pas le travail de tous ces pédagogues qui demandent que ça, hein. Ils demandent que à être avec leurs élèves, et c'est ce qu'ils aiment faire. Et donc effectivement, apprendre à se connaître, et puis si je devais donner un troisième point après l'écoute, après la connaissance de soi, c'est construire des relations durables dans le temps avec les gens qui sont autour de soi. Et là-dessus, on fait un épisode sur la création d'entreprise, le développement de projet. Donc évidemment, je pense à la relation d'associé.
Non, mais là, je pense que la question est plus large aussi, parce que développement personnel, tu vois, finalement, ça peut être la vie amoureuse, ça peut être la vie amicale, peu importe.
Absolument. Et là-dessus, sur la vie amoureuse ou les amitiés, construire des relations durables, construire des relations qui ne se détruisent pas et qui évoluent constamment, ça doit être, je pense, un vrai objectif, et c'est un très, très bel objectif. Moi, j'ai appris... assez tard au final à le faire dans mon parcours d'entrepreneur, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui compte énormément dans les interactions que j'ai avec mon équipe et principalement avec certaines personnes.
Ce qui est certain, c'est que moi, de ma petite expérience, s'entourer de personnes qu'on admire ou qui nous apprennent des choses, qui nous stimulent, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs outils de développement personnel possible, parce que c'est tout simplement des personnes qui vont te challenger, te poser des questions, te faire réfléchir sur toi-même. Et juste apprendre des choses, quoi, tout simplement. Donc, je pense que c'est clair qu'il faut se poser la question de avec qui on travaille, avec qui on s'entoure, quoi, tout simplement.
Avec qui on s'entoure, et puis ensuite, une fois que la personne est là, c'est maintenant que le travail commence. Mm. C'est maintenant que le travail à deux commence. Moi, j'ai une associée qui s'appelle Anaïs Préto et qui est assez exceptionnelle.
J'ai l'impression que vous êtes assez complémentaires en plus.
Écoute, on essaye de l'être, en tout cas moi elle me supporte et je sais pas comment elle fait tous les jours, mais effectivement on fonctionne pas du tout la même manière, Anaïs, c'est quelqu'un qui va vraiment penser un fonctionnement global, qui va penser un fonctionnement d'équipe. C'est quelqu'un qui va s'assurer d'une alchimie collective, là où moi, je vais être dans une recherche de la communication individuelle totale et absolue.
D'accord.
Donc, comme je suis coach, en plus, évidemment, j'ai un biais à ce niveau-là. Donc, par exemple, pour la même situation, si on a une situation avec notre équipe, un challenge ou un défi à relever, moi, mon premier réflexe va être de me dire quelle est la personne la plus importante sur ce projet et comment est-ce que je peux l'aider au maximum, la connaître au maximum et l'aider aussi à se confronter à ce qu'il a limite et ce qu'il a bloque. Là où Anaïs va avoir ce don de regarder un peu plus au large, de penser les différents pôles de la boîte. Et c'est vraiment un capitaine, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Pour moi, c'est l'amiral qui voit tous les bateaux. Il y en a un qui part à gauche, l'autre qui part à droite. Moi, je suis incapable de faire ça. Enfin, bien moins fort qu'elle. Et par contre, ce qui nous unit, c'est qu'on a tous les deux une très forte empathie et qu'on respecte beaucoup l'humain. Et sinon, ça, évidemment, on pourrait pas avoir autant de plaisir à bosser ensemble.
Je fais un petit aparté du coup, mais tu as parlé quand même en filigrane pas mal, enfin d'ailleurs sans parler en filigrane, du mot coaching. Et je sais que moi, sur notamment mon compte Instagram, j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions sur le coaching, donc j'en profite, même si c'est pas une question d'un des auditeurs, pour te poser la question, en fait concrètement, c'est quoi le coaching? Et est-ce que tu pourrais me décrire à quoi ça ressemble en fait une séance avec un coach et à qui peut-être ça pourrait servir?
Bah, c'est une question... à laquelle on ne peut pas répondre, mais je vais essayer. Une définition qui, à mon avis, serait acceptée par tout le monde, le coaching est ce qui permet à quelqu'un de se transformer. Le rôle du coach, plutôt, est d'accompagner une personne qui veut se transformer,
d'accord,
de l'aider à trouver les points les plus importants dans cette transformation et le soutenir professionnellement et personnellement. Une fois cette définition donnée, je vais essayer de clarifier les différences entre le coaching, la formation et le consulting.
D'accord.
Le coaching, c'est donc de la posture basse où je vais questionner. La formation, c'est au contraire une posture de transmission. Je prends un sujet donné, je te donne des connaissances, j'essaye de les consolider sous forme de plan de formation le plus cohérent. Le consulting, c'est sortir des frameworks, des méthodologies pour des cas concrets.
D'accord.
Et moi, je fais un mélange des trois.
D'accord. Mais qui n'est pas une forme de coaching traditionnel.
Qui n'est pas une forme de coaching traditionnel, mais là où moi, j'ai parfois des discussions passionnées ou animées avec des coachs qui sont par exemple, sont très soucieux du diplôme, de la formation. Ouais. Moi, j'ai aucun diplôme de coaching.
D'accord.
Bon, alors après, certains disent que je ne suis pas coach. Et en fait, bon, moi, je... encore une fois, Live Mentor s'appelle Live Mentor parce qu'il y a le terme mentor dedans, et donc j'aurais plutôt à me décrire comme un mentor, ce qui est donc une astuce pour sortir du débat sémantique. Mais ce qui est certain, c'est que je fais un mélange des trois, et ce que je peux aussi te dire, parce que je commence à connaître pas mal de formateurs et de coachs, c'est que je ne suis pas le seul à brouiller les lignes, et je pense que ce n'est pas très grave au fond. Ce qui est certain, c'est qu'il y a différents styles. Alors là-dessus, tu vas par exemple avoir des coachs spécialisés dans des thématiques comme les relations amoureuses, comme la reconversion professionnelle. Tu vas avoir aussi des coachs spécialisés dans le développement d'une entreprise. Et puis, certains vont mélanger le pro et le perso. C'est ce que je fais moi, désormais, puisque au fil des années, mais tout ça, moi, c'est pas tant de la... comme j'ai été formé par personne, à part par les personnes qui ont fait appel à mon activité de coaching. Tout ce que je te donne,
c'est ton expérience.
C'est mon expérience, c'est quelque chose qui vient en autodidacte. Moi, je me suis rendu compte au fil des années que je coachais des entrepreneurs et que derrière des problématiques business, derrière des problématiques de création de communauté, derrière des problématiques de trésorerie, derrière des problématiques de marge, derrière des problématiques de communication, il y avait des sujets
de fond
infiniment
personnel.
Et donc je suis allé dans ces sujets personnels et ça fonctionne mieux comme ça, donc je garde ce double regard perso pro tout en continuant de mélanger coaching, formation, consulting.
Sans rentrer dans un détail qui pourrait être indélicat pour un de tes coachés, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple ce passage de relais entre le personnel et le professionnel?
Bien sûr. Bon, je peux donner plein d'exemples anonymes. Par exemple, je pense à quelqu'un que j'ai accompagné. J'ai trois exemples en tête. Le premier exemple, c'est une personne que j'ai accompagnée qui avait une boîte de un an d'existence. Vraiment un joli démarrage, un projet qui a du sens, un projet qui passionne. C'est un objet que tu peux trouver dans une papeterie.
D'accord.
Sans donner plus d'infos. Et c'était une personne formidable qui n'osait pas prendre la parole, n'osait pas communiquer. Et donc, avait tendance à ne s'ouvrir au monde et à ne faire de la communication qu'au lancement de nouveaux produits. Et comme elle lançait un produit tous les 6 mois ou tous les ans, ça faisait...
peu de moments de communication.
Ça faisait assez peu de moments. Et en fait, j'ai compris en bossant avec elle qu'elle avait certains blocages, elle était peut-être pas à l'aise face à un écosystème où les entrepreneurs sont souvent beaucoup plus jeunes qu'elle. Et on a travaillé là-dessus et à un moment, elle a commencé à y aller, à se confronter, à aller à des événements, à présenter sa création, à présenter son projet. Et en fait, tout de suite, elle a adoré ça. Et ça, tu vois, moi, je n'ai pas du tout une approche où je vais demander à quelqu'un qu'on se voit pendant une heure, 5 semaines d'affilée ou 10 semaines d'affilée pour aller au plus profond, pour remonter à l'enfance. Mon père est psychiatre, psychiatre et psychanalyste, donc la double peine. Donc, je connais plutôt bien ce que c'est.
T'avais pas envie d'infliger ça à tes pauvres coachés.
Non, c'est pas ce que je fais. Moi, je pousse à l'action. J'ai vraiment une méthodologie de coaching qui est très axée action. Donc, je pousse les gens à faire, et en l'expliquant que c'est pas grave, si on se plante, on se relèvera quand même. Et en fait, après sa première conférence, elle a adoré. Maintenant, elle en fait régulièrement. Deuxième problématique, deuxième exemple que je peux te donner, quelqu'un qui, pas plus tard que le week-end dernier, j'ai organisé un stage qui mélangeait justement développement du projet et développement personnel. Et je bosse avec quelqu'un pendant 2 jours et ça bloque. Je vais la voir le dimanche en fin d'après-midi et je vois qu'elle bloque à nouveau sur les exercices et c'est un exercice de planification. Et elle me dit j'arrive pas à planifier le développement de mon projet sur les prochains mois, je suis complètement paralysé, Alex. Et je sais pas pourquoi je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer en freelance? Quelqu'un qui est freelance, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer en freelance? Qu'est-ce qui a motivé cette envie de te lancer en freelance? Si on revient à l'envie, on va savoir de quoi sera fait le futur. Les larmes commencent à monter. Donc, je la prends à part, je la sors de la salle où il y avait une quarantaine d'entrepreneurs qui bossaient pour aller dans une autre salle privée pour qu'on puisse parler. Elle éclate en sanglots. Donc, bon, on prend pas mal de temps ensemble. Et en fait, elle m'explique que la planification, ça lui rappelle ce qui s'est passé il y a 4 ans où elle bossait dans une très grosse boîte que je vais pas citer. Et on lui demandait de planifier. Et là, en fait, on analyse ensemble, parce que c'est toujours une analyse qui se fait à deux, que ce qui est en train de se passer, c'est une mémoire de souffrance et c'est une mémoire sensorielle. Je lui demande de faire un exercice de planification et ça lui rappelle la souffrance qu'elle avait dans cette boîte où elle a fait un burn-out.
D'accord.
Et on lui demandait de planifier. Et je l'amène à comprendre la différence entre être dans une boîte où on te demande de planifier une stratégie pour une entreprise que tu n'aimes pas et planifier ton projet qui est à toi. Et ce point-là, était,
a fait qu'elle a eu un déclic, j'imagine, après.
Ouais, on est en échange depuis et c'est clair que elle a été transformée en sortant de la salle parce qu'elle avait trouvé l'idée. C'est vrai que dans le coaching, il y a vraiment ce moment où tu trouves l'idée, une idée à laquelle tu t'accroches et qui te permet d'avancer. Et la dernière problématique que je peux te donner qui mélange le pro et le perso. J'ai accompagné une musicienne.
D'accord.
J'accompagne encore une musicienne qui est géniale, qui a eu une très jolie réputation. Et c'est compliqué quand tu ne veux pas donner les prénoms parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas dire. En fait, tu vois à quoi ça ressemble à l'enfance d'un musicien au conservatoire ?
J'imagine très dur et
c'est vraiment pas marrant.
Tout le temps, ouais.
C'est vraiment pas marrant parce que tu es en compétition totale avec les gens autour de toi.
Ouais.
Tu te fais clairement chaque année, on t'explique qu'on va garder 50% de la promo.
Hyper compétitif.
Donc, les enfants, ils se regardent entre eux toute l'année en disant là, elle vient de manquer.
Ils sont pas très copains, quoi.
Genre, voilà, ils sont vraiment en concurrence. Et t'as ce moment de l'audition où tu passes devant toute
tout
la promo.
En plus.
Et tout le monde espère que tu te foires.
Quelle horreur.
Cette personne en a tiré un profond.
Une défiance, peut-être.
Ouais, méfiance vis-à-vis de l'entourage. Et donc, a eu du mal ces dernières années à s'entourer des bonnes personnes. Et on a clairement marre de son milieu professionnel, ça c'est évident, parce que bon, elle a très bien réussi le conservatoire, mais elle en a marre de son milieu professionnel. Mmh. Et donc je lui ai fait faire une liste en fait de 100 personnes. Je lui ai dit, écoute, fais-moi une liste de 100 personnes, tu mets qui tu veux dedans, que tu aimerais rencontrer. Si c'est des gens que tu connais, que tu as identifié, tu mets leur prénom et leur nom. Et puis si c'est j'aimerais rencontrer un clown en Italie, tu mets un clown en Italie, puis ce sera très bien. Et on a bossé là-dessus, et depuis, elle a continué son chemin toute seule, et ça, je suis très content de ce qui est en train de lui arriver.
Bon, bah merci, écoute, pour ta réponse. C'est marrant, en fait, parce que c'est vrai que tu parles de beaucoup de transformations, et je l'entends, en fait, dans tes mots. Moi, juste, j'ai eu une fois une définition d'une personne que je trouve pas mal aussi du coaching, qui était quelqu'un qui faisait le parallèle donc avec tes autres amours, la psychanalyse et la psychothérapie, qui était que de dire que en fait la psychanalyse, la psychothérapie, c'est en fait tourner vers le passé uniquement, et que le coaching, en fait, c'est essayer d'aller vers l'avenir et de changer l'avenir. Et je trouvais que c'était assez joli aussi comme définition. Donc,
ouais, c'est très joli. Et pour finir sur ce sujet. Il faut, pour moi, le coaching est le début, la continuité d'une transformation, mais surtout pas une fin. Je ne supporte absolument pas le marketing dans certains univers du coaching où, en gros, on te dit tu vas voir l'Everest et ta vie va être transformée du jour au lendemain. C'est absolument faux.
Oui, ça.
Tu essayes d'identifier certaines idées et après tu les portes en toi pendant plusieurs
années.
C'est
un processus qui ne s'arrête jamais, en fait.
Hein. Exactement. Donc, faut vraiment le voir sur du long terme.
Top. On passe à la question d'après.
Allez.
Alors, question d'après de Ernestine 28. Merci Ernestine. Comment savoir s'il faut continuer, s'acharner ou s'arrêter? J'ai adoré cette question. Je la trouve très difficile. Et du coup, je suis ravie de ne pas y répondre et de te laisser la parole.
C'est pas facile. J'aimerais bien lui poser des questions à Ernestine. Écoute, je crois qu'il y a trois questions qui sont intéressantes. Un, est-ce que je peux vivre de ce projet? On choisit ses combats. Il y a peut-être un combat qui consiste effectivement à imaginer une société où l'argent est remplacé par autre chose. Mais en tout cas, actuellement, il est fonction centrale et on a tous un loyer à payer. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que je peux en vivre? Et là-dessus, ce qui aide, c'est de savoir si des projets similaires existent et permettent à leurs créateurs d'être encore là.
Ouais.
Ce qui est génial, c'est qu'Internet ouvre des modèles économiques, mais complètement nouveaux. Moi, je coach des artistes qui utilisent un site qui s'appelle Patreon, qui est un site de financement participatif, de mécénat participatif. Et donc, leur communauté se mobilise et des centaines de personnes donnent quelques euros
dons,
chaque mois. Ce qui est génial. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est est-ce que il y a un élément qui me passionne fondamentalement dans ce projet? On en revient à une des premières questions.
Qui était d'ailleurs, tu parlais de, excuse-moi de t'interrompre, de Frédéric Mazzella au début, qui, j'avais posé la question en fait, parce que c'est vrai que je crois que lui, il a vécu quasiment 4-5 ans avant de réussir à trouver un business model pour Blablacar, et qui me disait, en fait, ce qui me faisait tenir, c'était tout simplement que j'étais réellement passionné, amoureux du projet.
Exactement, exactement. Et le troisième point, c'est l'entourage pour moi. Est-ce que j'ai un entourage qui me soutient? Je crois vraiment que dans la vie, tu as plusieurs cercles, tu as plusieurs ronds. Il y en a un, c'est le projet, il y en a un autre, c'est la famille, il y en a un autre, c'est le couple, il y en a un autre, c'est la spiritualité, enfin, et puis il y en a sûrement plein d'autres. Et si tu as le cercle de ton projet est difficile en ce moment et que tu te poses des questions, c'est vraiment super si les autres peuvent être assez solides. Sinon, ça va être dur d'avancer.
Ouais, c'est sûr. Je pense que c'est un excellent conseil. C'est vrai qu'on ne peut pas se battre sur tous les fronts en même temps. Et créer une boîte, c'est assez difficile. Surtout, là, visiblement, dans le cas d'Ernestine, elle est peut-être pas si simple, cette entreprise, parce qu'il faut se poser la question de continuer. Si, en plus, tu as d'autres fronts en même temps, c'est, je dirais, impossible de réussir à bien faire les choses. Merci beaucoup pour ta réponse.
Et peut-être que tu répondras un jour, Pauline, dans ce podcast, à la question « Comment fait-on quand on crée une entreprise avec son conjoint, ce qui est ton cas. »
Je ferai un épisode dédié. Ça mérite une bonne heure, je pense. On passe à la question d'après. Alors, la question d'après, plus pragmatique, de alio.rz. Merci, Alio. Est-ce qu'on a besoin d'un expert comptable dès le lancement et de façon générale, quand faut-il s'occuper de l'administratif? Faut-il le faire dès le début? Merci de nous ramener un peu dans la réalité concrète de ce monde, Alio.
Assez tard. Ma réponse sera assez tard.
Vous l'avez fait tôt pour Live Mentor?
Non, on
l'a pas
fait
du tout.
On l'a fait peut-être beaucoup trop tard. Nous.
C'est ça, il y a quand même une limite qu'il ne faut pas franchir.
On l'a peut-être fait beaucoup trop tard et effectivement, ça n'a pas été facile. Bon, nous, notre premier comptable, il est quand même arrivé en prison. Hein. Il y a eu énormément de soucis avec cette personne et on s'est retrouvé avec 30 boîtes. On était les 30 clients qui le chassaient pour. Avec certains le chassaient littéralement.
Mais ça arrive plus souvent qu'on ne pense, malheureusement.
Oui. Bon, il est parti avec les comptes. Sacrée histoire. Non, écoute, je pense qu'il ne faut pas se bloquer là-dessus. Et clairement, si ton projet n'est pas encore lancé, oublie complètement cette histoire de comptabilité. Il y a des services qui existent en ligne comme Fred de la Compta. Je ne les ai pas testés, mais il paraît que ça fonctionne bien. Mmh. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que sur les questions comptables, juridiques, il existe de plus en plus de services en ligne qui permettent de diviser énormément les coûts d'entrée.
Bien sûr.
Si ton projet est plutôt standard, si tu n'as pas des contraintes, des problématiques, par exemple, si tu as juste un associé et pas 16, je pense qu'il faut aller voir des sociétés en ligne qui font ça extrêmement bien.
Bah, juste pour raconter un petit peu au tout début de Gemio, je crois que c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée jusqu'à présent. On n'avait pas non plus de comptabilité au départ, on n'avait pas d'avocat non plus. En fait, on avait un peu... je travaillais avec mon beau-frère et mon mari, donc c'est peut-être plus simple de se faire confiance. Mais on s'était un peu serré la main, on s'était dit bah, voilà comment on va se répartir les parts et on a envie de le tester. On s'était fixé un peu une deadline aussi en se disant bah, voilà, on va voir si on arrive à collaborer ensemble. Et en fait, l'idée, c'était justement de ne pas engager des coûts, de ne pas engager des démarches qui soient compliquées avant d'être au moins sûr que l'entreprise pouvait être créée, qu'on arrivait à collaborer ensemble. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de personnes, donc là, je prends un petit peu de hauteur par rapport à la question, qui souvent se polarisent sur des détails, en fait, qui sont souvent des détails compliqués, mais sur lesquels il ne faut pas passer trop de temps au début, parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce que je vais réussir, en fait, à avoir un marché? Est-ce que je vais réussir à créer un produit? Est-ce que je vais réussir à avoir des clients? Et je pense que c'est beaucoup plus important et beaucoup plus sain de se poser ces questions-là au début, plutôt que de se dire est-ce que je prends un expert comptable? Combien je le paye? Etc. Donc, ça vient à un moment donné, mais je pense que ça vient, comme tu le dis très bien, dans un second temps.
Et est-ce que je vais réussir à bosser avec mes associés, avec les cofondateurs?
Tu reposes la question de est-ce que je vais réussir à travailler avec mon mari? Mais je répondrai une autre fois.
mais par exemple, je vois beaucoup de projets qui font l'erreur de s'associer trop vite, d'ancrer dans un pacte d'actionnaires, dans des statuts. On se connaît depuis 2 semaines, on va créer une boîte ensemble. Bim, bim, 50-50. C'est une catastrophe, c'est une erreur. Vous avez vraiment le temps, on a le temps, on a toujours le temps. Et moi, j'ai fait cette erreur d'ailleurs. Moi, ma première société, je me suis associé avec 2 personnes au bout d'un mois. Et bah, un mois après la création de l'entreprise, il y a une de ces personnes qui est partie. Donc, c'est un temps
de record. Ce qui est très classique, hein, et c'est normal. Au début, on est tout feu, tout flamme et on a envie. Et en fait, déjà, premier conseil, je pense aussi faire très attention avec une personne qui n'a pas quitté son emploi. Enfin, c'est pas pour autant que la personne est mal intentionnée ou qu'elle n'est pas réellement motivée. Mais la réalité, c'est que s'il y a, on va dire, un désalignement, il y a une des personnes qui doit vivre à 100% de l'activité de l'entreprise et une autre qui a encore un job, c'est quand même pas du tout la même chose. On peut faire un petit aparté sur ce que tu viens de me dire, parce que c'est quand même hyper intéressant. Donc, j'ai pas eu de questions spécifiquement là-dessus, mais je sais que j'ai aussi pas mal de personnes qui me posent la question régulièrement sur l'association. Ça serait quoi tes conseils globalement pour quelqu'un qui a une idée, justement, qui se dit « Ok, c'est bon, j'ai envie de foncer », et qui pense qu'il a besoin de s'associer, ce qui est déjà un premier présupposé. Mais pour toi, en fait, c'est quoi un peu les grandes erreurs à ne pas commettre, justement, dans le cadre de l'association?
Waouh, moi, j'ai eu beaucoup d'associés.
Bah c'est bien, tu vas pouvoir me parler de toutes les erreurs
c'est,
que tu as commises.
Ça s'est pas toujours bien passé. Surtout sur ma première entreprise, c'était vraiment ridicule. Ensuite, première erreur, aller trop vite, évidemment. Faut prendre le temps. La deuxième erreur, c'est ne pas s'interroger mutuellement sur ce qu'on veut. Pourquoi tu fais ce projet? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Est-ce que c'est d'avoir du temps pour toi et de ne pas être contraint par des horaires classiques? Est-ce que c'est le succès financier? Est-ce que c'est la réalisation d'une vision? Quel est ton horizon de temps? Est-ce que tu t'engages sur 2 ans, 3 ans, sur 10 ans? Et si l'horizon de temps est différent, ce qui peut se passer, et ça, ce n'est pas forcément très grave, bah, qu'est-ce qu'on prévoit comme porte de sortie? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme manière de se séparer? Ça, c'est super important.
C'est hyper important. Enfin, vraiment, je suis désolée de t'interrompre, mais je vois vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui ne se posent pas ces questions. Et c'est vrai que c'est dramatique parce que tu peux te retrouver dans une situation où au bout de 2 ans d'activité, en fait, tu te rends compte que bah, la personne avec laquelle tu t'es associé, enfin, honnêtement, c'est quasiment comme si tu t'étais marié avec cette personne, juste a envie de vendre sa boîte, vendre votre boîte et en fait n'avait que envie de ça. Et à l'inverse, toi, tu penses que tu as envie d'y rester toute ta vie. Enfin, ça peut être vraiment dramatique. Donc, je vous invite effectivement à vous poser les questions. Et juste pour rebondir sur ton premier point aussi sur la rapidité, je pense que c'est hyper intéressant. Et si on peut rentrer un tout petit peu plus dans le détail concret, une fois de plus comme je l'expliquais au début, donc nous avec Gemio on n'avait pas de pacte d'actionnaires au début, on s'était entre guillemets serré la main. Alors une fois de plus je disais c'était avec mon mari et mon beau-frère, donc c'était peut-être plus simple de se faire confiance, mais je pense qu'en fait si tu fais pas confiance à ton associé déjà c'est quand même assez mal barré. Et donc j'ai envie de dire, si les gens se posent la question, oui mais combien de temps est-ce qu'il faut que je me laisse? Il faut bien laisser plusieurs mois. Il faut laisser plusieurs mois, je dirais 3 mois, 4 mois, 5 mois au moins, pour être sûr qu'on arrive à collaborer avec cette personne. C'est évident.
Il faut complètement laisser plusieurs mois. Moi, je pense à 2 filles qui sont géniales, Daphné et Jeanne, qui ont créé une marque qui s'appelle Mazonia. C'est des sacs colombiens faits par une tribu qui s'appelle les Wayou. Wayou.
D'accord.
Et donc, c'est ça qui sont produits là-bas, avec tout le respect de l'artisanat local. Et elle essaie de les faire connaître au maximum en France. Ce sont deux filles qui ne se connaissaient pas, qui ne sont pas amies. Et quand j'ai commencé le coaching avec elles, ce qui m'a vraiment marqué, elles ont compris qu'elles devaient se connaître et elles ont commencé petit à petit à instaurer des moments de communication et à se dire « Ok, bah, ce mois-ci, c'est la nouvelle année, on va partir 4 jours ensemble à la campagne et on va soigner notre relation et on va apprendre à se connaître. » Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on ne se connaît pas depuis des années, on n'est pas amis. Donc on va le devenir, enfin on va devenir même plus que ça, on va devenir associé. Et ça je trouve que c'est d'une maturité qui est exceptionnelle.
C'est clair, c'est un excellent conseil d'ailleurs qu'on peut donner je pense aux personnes qui nous écoutent. Bon merci, j'ai complètement digressé, excuse-moi mais c'est un peu le lot de ce genre de podcast. Donc on a répondu je pense à la question de l'expert comptable et on va passer à la suivante qui est sur l'association justement et qui est hyper intéressante. Je remercie vivement Mickey Kion d'avoir posé cette question. Merci Mickey. Faut-il être complètement transparent avec son associé? C'est une question qui est dure et je ne sais pas dans quel contexte il l'a posée, mais je trouve que c'est vraiment une question à laquelle on ne répond pas assez. Donc merci de ta réponse, Alex.
Oui, évidemment, sans aucune hésitation. Mais qu'est-ce que la vraie transparence? Comment réussir à être vraiment transparent? Bon, je crois qu'évidemment, plus on communique, on le dit tout le temps, mais il faut le redire, plus on communique, mieux ça se passe. Et si on arrive à exprimer nos doutes, à exprimer nos ambitions, à exprimer nos peurs à la personne avec qui on conduit un projet, c'est merveilleux. Il y a une manière de le faire, il y a des techniques comme la communication non-violente qui sont super intéressantes. Il y a ce que je disais avec Mazonia, par exemple, les sacs colombiens, le fait de se dédier des moments à deux où on part à la campagne. J'ai plein d'autres exemples de boîtes que j'ai vu passer où chaque semaine il y a 1 heure ensemble entre les deux associés ou les trois associés où il n'y a pas d'agenda et on essaye justement de ne pas faire du reporting. Voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que toi t'as fait, on livre ce qu'on a sur le cœur. Ça, c'est super important.
Bah, moi, je vais juste évoquer une personne que je connais depuis un moment, mais qui est en train de créer son entreprise et qui me posait un peu des conseils et qui crée sa boîte pour la première fois avec une personne qui est déjà en serial entrepreneur et qui, du coup, s'était un peu, je pense, complexée, tu vois, à l'idée de créer cette boîte avec quelqu'un de plus expérimenté qu'elle et qui commençait à me raconter un peu leur relation et le fait qu'elle avait des doutes sur le fait qu'il ne travaillait pas assez ou qu'il faisait certains choix qu'elle trouvait bizarres. Et elle se disait non, mais c'est pas grave parce qu'en fait, c'est lui qui a plus d'expérience, il sait, etc. C'est lui qui est le sachant, quoi. Et je lui disais, mais sincèrement, arrête-toi tout de suite, parce que si jamais tu commences à avoir comme ça un espèce de discours dans ta tête où tu te poses des questions et tu, en fait, tu juges son intention et t'es pas sûr justement de son intention, mais honnêtement, c'est pas du tout ça. Donc il faut absolument que tu ailles le confronter et que tu lui dises, et ça fait peur, clairement, parce que tu as envie que ça marche, parce que tu as envie que la relation elle fonctionne et que la boîte elle marche, mais en fait c'est dramatique. Et vraiment, si je peux donner un conseil moi par rapport à cette question, c'est que c'est comme dans un couple quoi, il faut absolument non seulement être transparent, mais en fait anticiper les problèmes. Et dès qu'on a un doute, dès qu'on interprète quelque chose, souvent d'ailleurs c'est dans la tête et c'est pas du tout, enfin en tout cas moi dans mon cas ça a pu être le cas et c'était dans ma tête très souvent, il faut absolument confronter la personne et pas méchamment, mais juste lui dire écoute, je suis désolée, et évidemment y mettre les formes, voilà ce que je pense, voilà la décision que t'as prise, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi qui interprète, mais juste vraiment en fait le dire et ne pas le garder pour soi, parce qu'en fait il n'y a qu'une réalité, c'est que tout ça s'accumule et qu'au bout d'un moment en fait ça arrive au clash et que c'est beaucoup plus dramatique. Donc ne jamais attendre et plutôt anticiper, je pense que c'est un conseil moi que je peux donner.
Mais plus tu attends, plus la relation devient dysfonctionnelle. Moi, il n'y a rien de pire que quand je commence un coaching et que je tombe sur un couple, un trio ou un quatuor d'associés complètement dysfonctionnels et qui ne le sait pas ou qui ne voit pas que le mur va exploser.
Ils ne se parlent pas, quoi.
Je me rappelle d'un couple d'associés où pendant la session... j'entends, mais comme si de rien n'était, non mais moi je pense que je fais tout mieux que toi. et toi t'es entre les deux et t'as les yeux qui deviennent énormes et tu regardes la réaction et le pire c'est qu'il n'y a pas de réaction de l'autre côté. Donc là tu sais que le problème est profond et que c'est le résultat de plusieurs semaines ou plusieurs mois d'un manque de communication. Ça peut se résoudre, mais faut travailler dessus. Et c'est la grosse urgence de la boîte, bien plus que n'importe quel autre sujet.
Certains. Question d'après, toujours sur une thématique très positive, puisque nos amis auditeurs me posent la question, comment gérer les phases de découragement ou les phases difficiles ? Et cette fois, je remercie SSABE22, donc SAB22 pour cette question, qui n'est pas facile aussi. Mais est-ce que tu aurais des petits trucs à nous donner ?
Ouais, dans ce genre de situation, moi je regarde deux frameworks. Il y en a un premier qui est, est-ce qu'il y a... quelque chose de très simple, une énorme surcharge de travail. Est-ce qu'il y a un risque de burn-out ? D'accord. Est-ce qu'il y a simplement, j'arrive pas à dire non ? Alors d'ailleurs, c'est très personnel, hein, généralement la cause de ça, mais est-ce que j'ai pris toutes les tâches qui me sont tombées dessus, toutes les missions, et donc je suis juste épuisé et je me suis pollué le calendrier avec plein de choses qui me donnent pas d'énergie et qui sont en plus, du coup, comme ça me donne pas d'énergie, je les fais mal, et donc ça crée rien du tout pour l'entreprise, pour le projet. Donc ça, c'est un premier champ qu'il faut regarder. Il y a un deuxième framework que je sors de mon expérience. C'est que des trucs que j'ai improvisé au fil des années. Donc je ne peux pas le backer par la science, mais c'est l'importance de la visualisation. Souvent, quand je suis dans un moment difficile, c'est parce que je n'ai pas fait l'effort de travailler ma vision et de me dire, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça ? Genre, c'est quoi la réalité dans un an, dans deux ans ? Moi, j'ai eu des moments vraiment durs chez Live, vraiment down, où j'avais envie de tout arrêter. Et à chaque fois, c'est parce que j'étais pas du tout au clair sur pourquoi je faisais Live Mentor. Ouais. Là, au début de l'année, ça m'a beaucoup aidé d'écrire un énorme article qui s'appelle Live Mentor en 2028.
Qui était très bien, je vous invite à le lire.
Allez, en tout cas, il est très long. Si vous voulez quelque chose pour vous endormir, il fait 3782.
On a des auditeurs qui écoutent des podcasts de plus d'une heure, donc je pense que.
Ils sont là, ils sont présents.
Ils sont warriors.
Mais ouais, j'avais vu pas mal de boîtes le faire. Je sais que, par exemple, un site s'appelle Bonne Gueule le fait chaque année. Ouais. Ils le font autrement. Eux, ils font le bilan de leur année. Moi, j'ai fait de la visualisation sur 10 ans. Ça peut beaucoup aider.
Bah, ça revient en fait à prendre en compte le pourquoi en fait de pourquoi on fait les choses. Ça me rappelle le livre forcément de Simon Sinek, tu sais, le Start with Why, que je vous invite à lire d'ailleurs, messieurs, dames, si jamais vous ne l'avez pas fait. Et c'est vrai que je pense que savoir pourquoi on fait les choses, c'est bête à dire, mais en fait, on oublie certainement parfois de le faire. C'est assez clé, je pense, pour avancer. Et ce que tu disais aussi précédemment me fait rebondir sur quelque chose que je fais, moi, et je vais donner ce petit tuyau parce que je n'y avais pas pensé, mais ça peut aider. Quand tu parlais de découragement, au début, tu sais, face à l'ampleur des tâches, et notamment face au fait qu'on n'arrive parfois pas à dire non. Quand on est très sollicité, parfois en fait, on a vraiment trop de trucs à gérer. Moi, je suis aussi une genre de personnalité où j'ai tendance à dire un peu trop oui et j'ai appris à dire non avec le temps. Et quelque chose que je fais maintenant qui fonctionne assez bien, c'est qu'à chaque fois, souvent le week-end, le dimanche, je regarde ma semaine à venir et je clean. Et en fait, je regarde ma semaine, je regarde tout ce que j'ai à faire et je me dis, OK, alors voilà mes grands objectifs de la semaine, voilà mon agenda, est-ce que c'est réaliste ? Non, mais alors qu'est-ce qu'il faut que j'enlève ? Qu'est-ce qui n'est pas indispensable ? Et parfois, il y a des choses qui sautent. Mais je pense que c'est hyper important de pas se laisser porter et de vraiment en fait, gérer sa vie, sa boîte,
mais je
son
fais
œuvre.
C'est vrai ? Pauline, c'est vrai, t'es la première personne que je rencontre qui fait également ça le dimanche. Voilà. Donc,
indispensable.
On peut se brancher en télévacie, c'est un moment... en plus, moi, je fais
il y a un côté assez jouissif en plus.
Ouais, un truc assez génial, vraiment le dimanche en fin d'après-midi. Si vous nous écoutez, on n'est pas fous. Essayez vraiment, ça marche. Tu regardes tes rendez-vous et puis moi maintenant j'ai même un mail type.
Bah bien sûr. Que j'envoie. Les fameux mail type Gmail.
Que j'envoie à des personnes pour m'excuser de finalement annuler le rendez-vous. C'est un mail assez long. Je suis vraiment super désolé.
Mais tu sais, au début, moi je le prenais. Enfin, je me sentais un petit peu coupable et en fait j'ai réalisé que je préfère faire un rendez-vous où je vais être vraiment motivée d'y être et entièrement présente plutôt qu'en fait enchaîner 15 rendez-vous où j'ai la tête ailleurs, je regarde mon téléphone et voilà. Et donc au final, peut-être que c'est un moyen de ne pas me sentir coupable, mais je me sens presque, tu vois, plus dans une situation où je rends service finalement à la personne adverse, quoi.
C'est clair, moi j'en suis convaincue en tout cas.
Génial. Alors, autre question, on va passer, il nous reste peu de questions, il nous reste deux questions. As-tu des coachs ou des personnes que tu consultes régulièrement, des mentors qui te conseillent ? Et cette fois, on peut remercier Alexandre Basbazian pour cette question.
Mais j'ai un coach.
Est-ce que le coach est coaché ?
Mais absolument, absolument. J'ai pris un coach pour Anaïs et moi, Anaïs mon associé donc, qui s'appelle Laurent et qui nous a beaucoup aidé à travailler notre relation d'associé. Et je le remercie vraiment, enfin, ça a été une super session, 2 jours intensifs. Je l'avais pris également pour mon board, pour mes actionnaires.
Ouais.
C'était un sacré épisode, c'était très marrant. À côté... j'essaie toujours de renouveler un peu mon cercle de mentors. C'est super important. Alors ça, c'est très fils de psy de dire ça, mais il faut tuer le père. Donc je ne sais pas si le mentor peut durer pendant des années.
Ouais.
En tout cas, il faut renouveler la relation.
Mais je pense aussi que certains mentors sont, entre guillemets, utiles ou peuvent te marquer, tu vois, pour certains moments de ta vie qui ne sont pas toujours importants. Et moi, je vois, j'ai eu un mentor à un moment donné qui m'a énormément aidé sur la création de Gemio. Bah, c'est Jacob Abou. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast parce que je l'ai invité. Et voilà, il m'a beaucoup aidé. Maintenant, il m'aide peut-être un petit peu moins. À l'inverse, j'en ai d'autres qui m'ont aidé sur d'autres phases de ma vie. Donc, je pense qu'il ne faut pas aussi se sentir forcément accroché à une personne. C'est pas que c'est une relation qui n'est pas forcément durable, mais je dirais que c'est normal en fait, que la relation elle évolue aussi en fonction de tes besoins, de tes envies. Donc,
complètement. Et puis aussi, peut-être quand tu te lances. En tout cas, moi, quand je me suis lancé, j'étais célibataire. Enfin, je l'étais pas une semaine avant le lancement, et puis je l'ai été après. donc, j'avais pas forcément dans mon cercle proche, en tout cas, quelqu'un avec qui je pouvais échanger,
ouais, te confier.
Et maintenant, c'est très différent parce que ma copine Estelle est aussi entrepreneur dans la relation qu'on a, je trouve qu'il y a une dimension de mentoring croisée qui compte en tout cas énormément pour moi parce que je sais qu'elle comprend. Absolument tout ce que je traverse et elle est pas là pour juger et son œil m'aide beaucoup et j'essaye de l'aider aussi en retour sur ses problématiques à elle et comme en plus parfois il nous arrive de bosser ensemble ça permet de parfois de s'engueuler mais aussi de encore mieux se connaître.
C'est certain. Et juste pour revenir sur la question de coach, de personne qui nous aide, qui nous guide, de mentor, je pense qu'il ne faut pas non plus faire une fixation dessus et ce n'est pas une nécessité. Moi, je sais qu'il y a pas mal de personnes sur le podcast qui m'ont dit « Ah, mais je n'ai pas de mentor, est-ce que je peux créer ma boîte ?» Oui, évidemment, on peut créer une boîte sans avoir un mentor. On peut même en fait, avoir des mentors qui sont des personnes qu'on peut écouter sur un podcast, qui sont des personnes qu'on découvre via des livres. Donc en fait, il ne faut pas non plus faire une fixation sur le fait qu'avoir une personne et un rendez-vous régulier est indispensable. Ce n'est pas le cas. C'est sûr que ça aide et je pense que c'est un moment important pour se confier. Mais il ne faut pas non plus se dire que c'est absolument indispensable.
Il faut faire super attention quand on dit ça. C'est danger de gourou. Danger de tomber dans les mauvaises griffes. Il ne faut jamais vouloir se dire « j'ai besoin d'un mentor ». Il faut partir d'une problématique très précise, la plus précise possible, je n'arrive pas à faire un plan pour ma boîte, j'arrive pas à m'associer, j'arrive pas à recruter. Et en fonction de cette problématique, on cherche quelqu'un qui peut être le bon mentor, qui peut être la bonne réponse à ce moment-là.
Bien sûr.
Mais on ne cherche pas une aide générale tout le temps, constamment.
Non, c'est sûr.
C'est pas l'idée.
Puis comme tu dis, il faut apprendre à tuer le père. Donc il y a un moment donné où en fait, on se rend compte parfois que le mentor, on en parlait au début avant de commencer à enregistrer, en fait, n'est pas forcément pertinent pour tout. Et je pense qu'on l'a tous vécu où en fait, tu peux avoir une personne qui s'y connaît énormément dans un domaine ou qui va avoir du recul pour te parler, je sais pas, de ta répartition entre vie personnelle et vie professionnelle. Et à l'inverse, qui n'est pas opérationnel depuis 30 ans et qui du coup ne connaît rien au web, par exemple, et ne va pas pouvoir te guider du tout là-dessus. Et donc en fait, je pense qu'il faut juste prendre le mieux en fait, chez les personnes qui nous entourent et puis ne pas leur en vouloir si jamais ils peuvent pas nous aider surtout quoi.
Et c'est la responsabilité du mentor, la responsabilité du coach de se mettre en retrait, de pousser la personne à se féliciter elle-même et non pas à féliciter celui qui lui a apporté de l'aide, à apprendre la célébration des victoires, à rendre l'autre autonome, indépendant. Mais ça, c'est un sujet de pédagogie qui est infini, qui d'ailleurs il y a plein d'exemples qui me viennent en tête.
Bon, on va finir par une dernière question, aussi assez pragmatique, mais intéressante, qui est au sujet des fournisseurs cette fois. Comment les trouver, comment les comparer, négocier et savoir s'ils sont fiables quand on lance sa boîte et qu'on n'a pas encore de légitimité business? Cette fois, c'est une question de Mademoiselle Ariane. Alors, c'est vrai que c'est plus pragmatique comme question, mais je l'ai gardée parce que j'ai eu en fait pas mal de questions à ce sujet sur les fournisseurs. Donc, j'imagine que c'est un sujet de stress que je n'avais pas anticipé en fait en posant les questions. Et est-ce que tu aurais des réponses à nous donner?
C'est une excellente question. On rentre dans des sujets très, très, très précis. Et là-dessus, je suis content d'avoir dans mon équipe Edouard. Donc Edouard, c'est le responsable de mon équipe académique.
D'accord.
Et son boulot est de créer une sorte de bibliothèque interne très intelligente dans laquelle on peut piocher, l'équipe de mentors peut aller piocher, quelle que soit la problématique, et aider les élèves, les porteurs de projets, les entrepreneurs qui ont cette problématique-là.
Super.
Et donc, je suis allé voir il n'y a pas longtemps le fichier, enfin, c'est un fichier digital, hein, ce n'est pas une vraie bibliothèque, c'est des ensembles de vidéos, parce qu'on a maintenant quand même 3000 heures de vidéos enregistrées sur la plateforme, donc il y a de quoi
faire.
Comment ça fait ? Et donc, qu'est-ce que j'ai vu sur la partie fournisseur ? J'ai vu que la première chose à faire était de décomposer le processus de production.
D'accord.
Parce que tu n'as peut-être pas qu'un seul fournisseur, tu en as peut-être plusieurs.
Certainement.
Si je te reprends l'exemple de Fempo, il y a d'un côté le tissu, il y a de l'autre côté l'élastique pour la culotte.
Et oui, on apprend des choses.
Si je te prends l'exemple de Cécile Cohen, qui a fondé Greenma, c'est une marque de thé bio que je t'invite à découvrir si tu aimes le thé, c'est délicieux. Enfin, moi, je suis shooté à ça toute la journée. Elle a plein de fournisseurs différents parce qu'elle fait plein de types de thé. Donc déjà, il faut décomposer le processus de production et essayer de trouver pour chaque étape le bon fournisseur. Ensuite, il faut, dans la sélection, toujours faire la même chose que pour un process de recrutement, à savoir des background checks, des checks de référence, parler à des gens qui ont bossé avec ce fournisseur. Troisième étape qui est importante, si c'est une création d'entreprise, les volumes vont évoluer et vont être petits au début. Donc tu veux trouver quelqu'un qui a l'habitude de miser sur des petites pousses qui grandissent. Quatrième point qui est un peu lié, enfin c'est pas vraiment la question, mais comment elle s'appelle la personne ?
Mademoiselle Ariane.
Bon, Ariane, note ce truc-là parce que c'est super important. Il faut aussi s'interroger sur le modèle de distribution. Et au démarrage, je l'invite très fortement à envisager les précommandes qui permettent
justement de ne pas s'engager. Ouais.
De ne pas s'engager, mais surtout d'arriver devant le fournisseur en disant « Attends, j'ai déjà 500, 1000, 2000 précommandes. » On va négocier un peu différemment les prix.
Ce qui a été, petite parenthèse, un vrai problème au début de Gemio, parce que nous, notre business model, comme tu le sais, c'est de fabriquer les bijoux à la commande. Donc, ça veut dire qu'on fournit pièce à pièce, ce qui est l'inverse de la joaillerie traditionnelle où on va avoir des stocks et donc on fait, je sais pas, 10 000 bijoux d'un coup. Ce qui est un gros avantage pour nous au niveau de la trésorerie et puis aussi au niveau des clients, parce qu'en fait, du coup, ça nous permet de proposer des marges plus faibles et donc des prix plus intéressants pour les clients. Mais par contre, au niveau des fournisseurs, c'était un drame et aucun fournisseur ne voulait travailler avec nous. Et moi, je me rappelle, c'est une anecdote que je raconte souvent. mais j'ai dû passer 150 coups de fil avant que j'ai quelqu'un qui accepte de travailler pour nous, parce qu'il nous riait au nez, il nous disait non mais une bague comme ça, c'est pas du B2B en fait, ça veut dire que vous êtes comme un consommateur final. Enfin, c'était l'enfer.
C'est clair.
Donc bon conseil, je pense, la précommande.
Ouais, mais effectivement, quand on est dans... Alors, c'est toi, ton cas, il est très précis, oui. Et peut-être heureusement, il est rare. En tout cas, mais du coup, ça veut aussi dire que peu de gens seraient capables de faire ce qu'a fait Gémio. Je pense que toi, il y a énormément de gens qui ont essayé de te copier.
Il y a un certain nombre de barrières, de barrières à l'entrée, ça, c'est
qui
sûr.
Sont arrêtés. Mais donc, voilà, les modèles de précommande, très efficaces. On fait quelques exemplaires. On fait ce que j'appelle la série de démonstrations. Ce qui permet de tourner la vidéo, ce qui permet de le mettre sur le site de crowdfunding, ce qui permet de le mettre sur son propre site, ça permet de faire suffisamment d'éléments de communication, de mobilisation de la communauté, et ensuite on arrive pour bien négocier. Ensuite, il faut traiter le fournisseur comme un associé, donc vraiment le connaître. La séance de coaching, il faut la faire aussi avec le fournisseur quasiment, mais vraiment, il faut que ce soit une relation où on mise mutuellement l'un sur l'autre. Et les meilleurs exemples que j'ai dans les projets qui sont sur live, c'est toujours un des fondateurs de la boîte ou le fondateur qui fait toute la communication possible avec le fournisseur. Il partage l'histoire, il partage les difficultés, il partage les galères, et vraiment il va au bout de la relation pour qu'il y ait un soutien très très fort.
Mais ça aussi, je suis désolée, juste j'étaye, on va dire, avec des exemples concrets pour revenir encore à Gémio. Désolée, messieurs, dames. Mais nous, typiquement, les fournisseurs qui ont accepté de travailler avec nous, donc après ces 150 coups de fil, il y en a un qui a accepté, qui était une entreprise pas immense au début. Je pense qu'il devait y avoir 25-30 salariés. Maintenant, il y en a plutôt 70, donc il a vraiment beaucoup grandi aussi avec nous. C'est des personnes qui sont des amis, c'est des personnes que moi j'ai invitées à mon mariage, c'est des personnes chez qui je vais passer des week-ends, et en fait ils ont cru au projet, ils ont cru à notre envie, c'est pour ça en fait qu'ils l'ont fait. Et donc pour revenir au point que tu disais précédemment, qui était il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient pu créer Gémio, bah, en fait ce qui a fait qu'on a réussi à le faire, c'est qu'on a créé ce lien avec des personnes affectifs en fait, et c'est ça qui a fait qu'ils nous ont fait confiance et qu'ils ont eu envie de nous donner une chance, quoi, tout simplement.
Et ça c'est génial, ce que tu viens de raconter c'est extrêmement précieux, je pense. Enfin, c'est ça qu'il faut retenir du podcast, plus que ce que j'ai raconté. Moi, un des thèmes que j'essaye de développer dans le livre, c'est la notion de relation et cette conviction que les projets aujourd'hui tournent plus autour de relations que de transactions. Alors, ça veut dire quoi, les relations? C'est les relations que tu as avec ton fournisseur, mais surtout les relations que tu as avec ta communauté. J'ai l'impression que ce qui est magnifique avec Internet, c'est qu'on peut créer des communautés, à peu près quel que soit le sujet, des communautés de passionnés. Et c'est d'abord sur ça qu'il faut se concentrer, avec énormément de générosité, d'authenticité, de création de contenu, de création d'événements. Et ensuite, ces passionnés formulent des besoins, des désirs, et on peut imaginer des produits, des activités, des services pour répondre à cette volonté. Mais pour revenir donc aux histoires de fournisseurs, le dernier point, un avocat évidemment pour le contrat aussi, et puis apprendre la négociation. Sur lequel il y a plein de
choses à dire, c'est sûr. Mais quand même, juste là-dessus, je pense qu'il faut aussi tuer un peu le mythe qui est qu'il faut toujours négocier. Je pense qu'au début, quand on crée sa boîte, on n'est pas en position de négocier. Ouais. Et il faut évidemment pas se faire avoir. Mais ce que je veux dire à l'inverse, c'est qu'il ne faut pas pinailler sur parfois des choses qui, vont tuer la relation. Tu parlais de relation, et moi, j'ai vu beaucoup de personnes, et moi-même, j'en ai fait les frais parfois, à vouloir trop négocier parce que tu as envie du mieux pour ton entreprise. Finalement, en fait, c'est pas viable pour le fournisseur, et soit il va te refuser, soit il va dire oui au début, et puis finalement ça va être moins bien fait, ou il va se dire que finalement tu pinailles pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et donc, je pense qu'il faut réellement se poser la question de l'équilibre en fait, juste entre le besoin de ton fournisseur et ton propre besoin. Et la négociation, en fait, pour moi, pour qu'elle soit vraiment réussie, il faut que ça soit win-win, il faut que ça soit une bonne négociation pour toi et que ça soit bon pour le fournisseur aussi. Et je pense que juste comme on peut l'apprendre parfois en école de commerce ou dans des grands groupes où on est là. Notamment quand on travaille dans tout ce qui est fonction achat, il faut négocier pour négocier. Sincèrement, je ne suis pas persuadée que c'est beaucoup de sens quand on crée son entreprise, d'autant plus qu'on en parlait précédemment sur les volumes. Moi, ça me rappelle l'un des premiers boards qu'on a fait avec Gémio, où on disait à nos actionnaires donc, ah bah voilà, on a trouvé ces fournisseurs, ils sont super et tout, mais bon, c'est un peu cher, donc notre marge, elle n'est pas très forte. Et ils nous ont dit, non mais attendez, d'où fonction du mentor, vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous faites zéro volume. Mmh. Quand vous aurez plus de volume, quand vous aurez 3 ans d'âge et que vous serez peut-être une référence, là, revenez les voir. Mais pour l'instant, ça n'a pas de sens d'essayer de négocier. Et donc, je dirais sur ce point, franchement, au début, quand on crée sa boîte, ce n'est pas le moment de négocier. Il faut juste que ça soit possible de gagner un minimum sa vie. Mais il ne faut pas non plus se dire que c'est ad vitam aeternam qu'on va payer ce prix-là.
C'est clair. C'est clair. Et pour moi, justement, l'angle que tu peux travailler... en parallèle, c'est comment est-ce qu'on s'apporte quelque chose mutuellement, outre la relation qu'on a, enfin outre la transaction justement qu'on a, comment est-ce que sur mon blog, je peux parler de mon fournisseur, si par exemple je suis dans une thématique où je suis assez fier de me faire produire en France, c'est produit localement et voilà le nom de mon fournisseur. Des marques comme le slip français font beaucoup ça.
Alors nous, malheureusement, avec Gémio, on aimerait bien, mais pour des raisons de sécurité, évidemment. On ne peut pas, évidemment.
Évidemment.
Mais oui, complètement. Enfin, valoriser ton fournisseur, en fait, c'est agréable pour eux et pour nous, en fait.
Bien sûr.
Génial. Alex, écoute, merci mille fois pour tout ton temps. Juste une dernière question qui me titille, c'est, t'en as parlé pas mal durant le podcast, là, c'est ce livre, ce fameux livre. Est-ce que tu peux me faire un petit scoop et m'expliquer en deux mots de quoi ça va parler ? J'avais pas prévu de te poser cette question parce que je ne savais pas que tu écrivais un livre, mais du coup, je te la pose. Et est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu penses que ça va sortir ? Faudra que je te réinvite pour en parler, mais en deux mots, de quoi ça va parler ?
Bah, je peux pas m'engager sur une date de sortie.
Non, ça. Faudrait que tu t'engages là, devant tout le monde, pour pouvoir ensuite avoir cette deadline et vraiment avancer. Mais bon.
Je vais essayer de le faire avant la fin de l'année. Je le fais en auto-édition. J'ai pas envie de passer par un leader traditionnel. J'ai été contacté par Duno et deux, trois autres, mais en fait, j'ai envie d'aller vite. Et je sais que j'irai plus vite en faisant de l'auto-édition, tout simplement parce qu'un éditeur, même s'il est très sympa, il a des plannings.
Oui, il paraît que ça met beaucoup de temps. Ouais.
De publication. Donc en fait, je n'ai que comme seule contrainte que mon temps et ma volonté. Je vais essayer de le faire d'ici la fin de l'année. J'aimerais bien viser septembre.
D'accord.
Ce livre, c'est 10 ans de pédagogie. C'est 10 ans que je donne des cours. Je fais que ça depuis que j'ai... Là, j'ai 30 ans. Je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Je donne des cours sous différentes formes, de cours particuliers, cours collectifs, cours en ligne, cours en présentiel, création de contenu, des vidéos enregistrées, évidemment, pour nos formations en ligne chez Live, et puis du coaching maintenant qui mélange la partie perso et la partie pro. J'aimerais bien mettre ça sur papier pour montrer comment on est arrivé à cette manière d'aider des gens qui veulent entreprendre et essayer de le faire différemment. Le plan de ce livre, il va s'articuler autour de ce qu'on a commencé par dire au début, à savoir les différentes étapes, la méthode, le désalignement avec tes valeurs, la recherche d'inspiration, l'affirmation, la communication avec les autres. Je voudrais que ce livre soit étayé d'un maximum d'exemples. Il y en a des bons, mais les livres de développement personnel où on te vouvoie et où on te dit « vous devez faire ça ».
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Vous devez faire ça. Je ne supporte pas. D'ailleurs, dans le copywriting de Live Mentor, dans les règles d'écriture, j'interdis qu'on soit dans le vouvoiement excessif et qu'on soit dans le tutoiement également excessif. Je suis pour le style impersonnel, pour le nous, parce qu'on est un peu ensemble dans l'aventure. Et moi, j'ai pas de. Enfin, ce que je dis tout le temps, j'ai les conseils que je donne, j'essaie de me les appliquer moi-même et c'est pas facile tous les jours. Donc, je crois que c'est ce qui est au contraire très sympa dans l'élan d'entrepreneuriat, c'est le fait de rencontrer, c'est ce qu'on fait aussi toi et moi, c'est de partager des problématiques et d'essayer de trouver des clés de lecture ensemble. Du coup, je vais faire un appel à contribution sur tous les projets qu'on a accompagnés, il y en a quand même maintenant 4500, pour essayer de sourcer un maximum d'exemples, peut-être avoir un photographe qui se déplace un peu partout en France et dans d'autres
Génial.
Pays. On a des pays assez marrants, on a quelqu'un qui s'appelle... Patrick, qui a une école de voile entre la Nouvelle-Calédonie et la France.
Pas mal.
Ouais, c'est assez chouette. Il suit les cours en ligne depuis son bateau.
C'est génial. Franchement, c'est incroyable. Peut-être l'opportunité pour toi aussi d'aller lui faire un petit coucou et de te déplacer, ça peut être pas mal.
Ce serait pas mal. Donc, j'aimerais bien aller prendre une photo de lui. Parce que tu vois, c'est un type qui a quitté la France il y a 20 ans avec sa femme, ils ont envie de voyager, ils ont pris leur voilier.
Tu sais que j'ai pas mal d'auditeurs du podcast qui me disent qu'ils sont en Nouvelle-Calédonie, enfin, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas en France. Et je trouve ça plutôt sympa.
C'est super chouette. Hein. C'est super chouette. Donc voilà, un bouquin sur la pédagogie et sur spécifiquement la pédagogie qui permet de lancer un projet, le développer. C'est le thème de ce livre.
Bon, bah, j'ai hâte de lire ça. Top, merci mille fois. Une dernière question, c'est est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on te trouve sur le monde merveilleux du web, sur le site Live Mentor que je mettrai dans les liens du podcast, bien évidemment. Et sinon
LinkedIn, c'est bien. D'accord. On trouve,
c'est quoi? C'est Alexandre Dana, ouais. Sur LinkedIn, tout
Alexandre
simplement.
Alexandre Dana. Et puis après, moi, j'écris encore en partie la newsletter de Live Mentor. On peut s'inscrire via le footer de notre site. C'est très peu visible. Il faut qu'on change ça. Mais c'est une newsletter avec des conseils les plus pratiques possibles qu'on envoie chaque semaine. Il y a maintenant plus de 220 000 lecteurs. Donc, ça met une petite pression quand on clique sur le bouton planifier. Envoyer. voilà, on peut me suivre sur ces supports-là.
Parfait. Bah, écoute, je mettrai les liens. Je ne sais pas si je mettrai le lien du coup vers la newsletter, mais j'expliquerai comment la trouver, même si moi-même, j'ai eu beaucoup de mal. mais du coup, j'expliquerai tout ça. Et merci mille fois, Alex. Et je te dis peut-être à bientôt quand tu auras sorti le livre.
Écoute, merci beaucoup à toi. Et encore une fois, vraiment, je le dis parce que je le pense. Je trouve ça super que tu dédies ce temps à organiser des podcasts avec le gratin. Je suis assez... je connais pas mal cette scène des médias sur l'entrepreneuriat et il y en a assez peu où j'ai pu à la fois écouter le patron de Blablacar, quelqu'un parler de nutrition, et le Jacob Abou qui est un petit personnage à lui tout seul, des coachs sportifs. Enfin, tu vois, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette et je pense qu'il faut, si vous l'écoutez, faut diffuser ce podcast au maximum et puis suggérer des invités. Quoi.
Pas hésiter à suggérer de nouveaux invités. Merci beaucoup, Alex. Écoute, c'est adorable de ta part, ça me touche beaucoup. Puis je te dis à bientôt.
À bientôt.
Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, les directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, me proposer de nouveaux invités peut-être, ou juste me faire un feedback, n'hésitez pas. J'adore ça, les feedbacks. Donc foncez directement sur Twitter ou Instagram sous le pseudo Pelaigneau, @PLAIGNEAU. J'essaye de répondre quand on me parle, donc n'hésitez pas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, si le podcast vous plaît, que vous appréciez tout ce travail, le plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de mettre soit un petit mot doux, soit une note 5 étoiles sur iTunes ou de partager sur vos réseaux sociaux aussi. Ça donne le moral, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, donc n'hésitez pas. Voilà, merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.